Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Politique au Tchad, le président tchadien Idriss Déby Itno a procédé à un remaniement gouvernemental, notamment au ministère de la Défense et de l'Intérieur, alors que le pays fait face à plusieurs menaces sécuritaires. Parmi les changements notables dans ce remaniement annoncé dimanche soir à la Radio Nationale, Mahamat Abalisala, ex-ministre de l'administration du territoire, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, devient ministre de la Défense. Originaire du Tibesti, région du nord du pays, frontalière avec le sud de la Libye où sont positionnés plusieurs groupes rebelles tchadiens, le nouveau titulaire du ministère de la Défense a été gouverneur de la province du lac Tchad, où les incursions du groupe djihadiste nigérian Boko Haram se multiplient depuis 2015. D'ethnie Toubou, comme beaucoup de nordistes, Mahamat Abalisala a aussi multiplié les missions dans le nord pour tenter de renforcer le contrôle de N'Djamena dans cette région, où opèrent trafiquants, orpailleurs illégaux et rebelles. Monsieur Salah est remplacé à la tête du ministère de l'administration du territoire par Mahamat Ismail Tchaïbo, un ancien patron de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité. Cameroun, accord pour le rapatriement des réfugiés centrafricains présents dans le pays. Le document a été signé ce week-end à Yaoundé, entre le Cameroun, la République centrafricaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le dit accord concerne exclusivement les candidats au rapatriement librement consenti. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Les négociations pour le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant au Cameroun ont duré 2 ans. À la demande des gouvernements camerounais et centrafricains, les premiers retours volontaires sont envisagés d'après l'accord tripartite signé le 29 juin dernier.
L'accord est l'acte juridique qui va encadrer le retour de ceux qui se seront librement et volontairement déterminés à rentrer dans leur zone d'origine.
Kale Bouti, représentant du HCR en RCA.
En juillet 2018, une enquête portant sur les intentions de retour menées dans les régions de l'Est, l'Adamawa et du Nord du Cameroun révélait qu'environ 20% de la communauté des réfugiés résidant dans ce que nous appelons façade Est du Cameroun, c'est-à-dire région Est, Adamawa et Nord, étaient favorables au retour au moment de l'enquête.
Selon les chiffres datant de juin 2019 fournis par le HCR, ce processus de rapatriement volontaire concerne 5546 réfugiés centrafricains, un chiffre largement inférieur au nombre de réfugiés centrafricains au Cameroun. Ils sont plus de 470 000 à vivre dans 3 régions du pays, l'Est, l'Adamawa et le Nord.
Ceux qui veulent encore rester ou bénéficier de notre hospitalité légendaire, il n'y a pas de problème.
Pour la Tanganyi, ministre de l'administration territoriale du Cameroun.
D'après les instructions du chef d'État, le président Paul Biya, mais ceux qui veulent rentrer, ils vont rentrer volontairement et ils auront donc la possibilité de commencer une vie nouvelle dans un pays que je crois est en train de se stabiliser.
Les conditions de retour paisibles ont été garanties par la partie centrafricaine. Virginie Baïkwa, ministre centrafricaine de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale.
Ceux qui veulent rentrer vont rentrer dans la dignité. On va respecter les conditions de retour exigées par les conventions signées par la République centrafricaine.
La cérémonie de ce jour marque un départ heureux pour nos compatriotes réfugiés au Cameroun.
D'après une enquête du HCR, les réfugiés centrafricains vivant au Cameroun ont conditionné leurs intentions de retour par le fonctionnement définitif des organes administratifs, le renforcement des dispositifs de maintien de l'ordre et de sécurité dans les zones d'origine, l'accès à la terre et les programmes d'accompagnement par les autorités de leur pays pour la relance de leurs activités. Pour l'heure, la date du rapatriement effectif n'est pas encore connue. Yaoundé, Emmanuel Juntam, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Togo, la population s'est rendue aux urnes dimanche pour les premières élections municipales depuis 32 ans. Pas de grande affluence dans les bureaux de vote. De Lomé, notre correspondante Kay Lawson fait le point.
Les électeurs togolais ne se sont pas bousculés devant les bureaux de vote ce dimanche pour élire leurs conseils municipaux. À Lomé, des irrégularités ont été recensées, Mais globalement, le scrutin s'est bien déroulé. Des organisations de la société civile ont dénoncé la non-accréditation de leurs observateurs par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Environ 3000 observateurs locaux n'ont pas pu être déployés à dénoncer la Commission épiscopale Justice et Paix. Notons que le scrutin a été reporté à une date ultérieure dans deux communes à l'intérieur du pays pour des raisons techniques selon la CENI. Ce scrutin est d'une importance capitale pour les partis politiques qui ont boycotté les législatives du 20 décembre dernier, mais aussi pour la majorité présidentielle. Ces locales sont perçues comme un test pour jauger leur représentativité. Par ces élections locales, les Togolais élisent 1527 conseillers municipaux pour pouvoir aux 117 communes du pays. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, des chasseurs d'oiseaux ont attaqué hier trois villages dans la commune de Wanko, au cercle de Bankas, région de Mopti, dans le centre du pays. Aucun bilan officiel n'était encore disponible, mais selon le maire de Wankoro, on compte des femmes et des enfants parmi les morts, et des greniers ainsi que des maisons ont été brûlées. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Hier vers 14h, les habitants de la commune de Wankoro, dans le cercle de Bankas, région de Mopti, ont alerté les autorités parce qu'il y avait des mouvements des groupes chasseurs dans leur localité. Haruna Sankaré, maire de la commune de Wankoro.
Les villageois nous ont d'abord alerté en nous disant qu'ils ont aperçu des chasseurs qui sont rentrés dans le village de Saran. Et quand ils sont rentrés dans le village de Saran, avant qu'ils commencent leur attaque, nous avons alerté l'armée et notre tutelle qui est la préfecture de Bankas. C'est dans les environs de 16h que les chasseurs ont commencé donc leur massacre. Ils ont tué plusieurs civils, dont des femmes et des enfants. Pour le moment, nous n'avons pas le bilan.
Les mêmes chasseurs ont attaqué un deuxième village du nom de Bidi, puis un troisième du nom de Sarankoro dans la même commune.
Vous savez, le village de Bidi qui a été attaqué, c'est après la sortie des militaires que les chasseurs sont rentrés encore dans le village. Ils ont lié, ils ont incendié toutes les maisons. C'est un autre village, il y a eu attaque en cours des chasseurs dans ce village de Sankoro. Pour le moment, l'armée s'est repliée à Wankoro.
Il faut signaler qu'avant les attaques contre ces trois villages, le troisième adjoint au maire de la commune de Wankoro avait été enlevé il y a une semaine. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Conflit en Libye maintenant, six ressortissants turcs détenus dans le pays par les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, ont été relâchés. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministère turc des Affaires étrangères au lendemain de menaces de représailles de la part d'Ankara contre les forces du maréchal. Le gouvernement turc avait fait état dimanche soir de la détention des six turcs par les forces du maréchal Haftar, avertissant ces dernières qu'elles deviendraient des cibles légitimes si les prisonniers n'étaient pas libérés. Pour sa part, l'homme fort de l'Est libyen avait menacé vendredi dernier de s'en prendre aux intérêts turcs dans son pays, accusant Ankara de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'Union nationale, le GNA, reconnu par la communauté internationale et dont le siège se trouve dans la capitale Tripoli. Rappelons que le 19 juin, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait confirmé que son pays fournissait des armes au GNA. Il avait aussi estimé que ses équipements militaires avaient permis à Tripoli de rééquilibrer la situation militaire face aux forces de Khalifa Haftar soutenues par les Émirats arabes unis et l'Égypte. La visite du président Donald Trump en Corée maintenant, voulez-vous que je franchisse la ligne? J'en serai très honoré. Par ces mots, Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont accompli hier dimanche un geste hautement symbolique et historique. Les détails avec Idriss Fall.
Donald Trump, en franchissant hier la frontière la plus hermétique du monde, a écrit une page d'histoire en compagnie de celui qu'il appelle son ami nord-coréen. Jamais un président américain en exercice n'avait foulé le sol nord-coréen. Pour ce faire, le village de Panmunjom, où fut signé en 1953 l'armistice, a été choisi pour cette troisième rencontre entre les deux hommes. Donald Trump, arrivé à pied de la Corée du Sud, a franchi la ligne de démarcation quelques secondes avant Kim Jong-un, une poignée de main, quelques propos et Donald Trump marchera seul sur le dallage en béton pour entrer en Corée du Nord. Puis, les deux hommes se retirent pour un tête-à-tête de près d'une heure. Les photographes et caméramans qui accompagnent le président américain sont restés au sud et sont furieux car n'ont pas pu prendre la photo de ce moment historique. Retournant au sud, Donald Trump a murmuré quelque chose à l'oreille du Nord-Coréen qui a éclaté de rire. C'était un air d'improvisation très éloigné des deux précédents sommets à Singapour et à Hanoï.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.